Bonjour, bonjour toute l'équipe, bonjour tous les AMG. Moi, je voulais souhaiter bonnes vacances à tout le monde, dans l'espoir surtout, surtout que vous nous reveniez. J'espère. Bon, c'est tout. Alors, bonnes vacances à tous et bon courage. Au revoir.
Salut Daniel, bah écoute, c'est François. Bon bah voilà, ça y est, c'est les vacances. Alors je suis un peu triste évidemment de quitter mon patron préféré. Mais je prépare ma valise pour partir à Quimplage. J'ai mes tongs siglés UMP, j'ai ma crème bronzante, j'ai ma bouée à gonfler en forme de canard, j'ai le CD de la Lambada, j'ai l'intégrale de tes émissions sur mon iPod depuis 10 ans pour qu'on se quitte pas complètement. Ah, mais je sens que quelque chose manque à mon bonheur. Zut, j'ai oublié le journal Fakir. Ah, c'est pas grave. Vite, je cours tout de suite à la maison de la presse du quartier pour l'acheter. Parce que pour des vacances entre colère et rire, j'achète Fakir. Salut Daniel, et puis bonnes vacances.
Alors, au journal de 13h sur Inter, 27 minutes sur la mort de Michael Jackson. Bravo, bravo. Il faut le faire. Enfin, je trouve ça quand même lamentable. Par contre, pas une seule minute sur la mort de Farrah Fawcett. Je suis outré. J'espère que les têtes vont tomber. À bientôt.
Affligeant de bêtises, l'émission du 25. C'est dur quand on est les daims de jardin et qu'on se prend pour des grands journalistes d'essayer de démolir un grand bonhomme comme Yann Arthus-Bertrand qui a vraiment beaucoup de talent. Mais nul, nul, nul. Ben, les histoires de François Pinault, bon, on les connaît par cœur, Conforama, les fauteuils, tout ça. Mais longtemps qu'on est informé, et l'autre qui donne des coups de téléphone, c'est digne d'un môme de troisième ou de quatrième. Et ça se prend pour des journalistes. Vraiment, Daniel, il est temps que tu prennes des vacances. Ciao.
Et ben voilà, c'est exactement ce qu'on va faire. On part aujourd'hui, c'est la dernière de la saison. Là-bas, dernière. Et pour cette dernière, eh ben, on va revenir sur quelques moments de là-bas, si j'y suis, au cours de cette année. Et on va commencer tout de suite par cette petite perle. Elle n'est pas de nous, mais elle n'en est pas moins remarquable.
Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à la Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Vous plaisantez, j'espère.
Je vous
on
pose la question.
On regrette rien, ça. Non, non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs, à côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter, là, faut arrêter.
Pour vous, la fin justifie les moyens.
Mais attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui veulent pas aller se faire démonter, crever, on veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. On a tenu 5 semaines, pendant 5 semaines j'ai réussi, on a réussi à retenir les gens. C'est fini, les gens ils n'en veulent plus. Le gouvernement nous a fait des promesses. Il s'était engagé à réunir une tripartie qu'on demande depuis le début, dans les 3 jours. Ça fait une semaine que ça dure.
Xavier
et
Mathieu,
aujourd'hui, on se rend compte.
On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir?
Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dernier manifestation qui dit « Qui sème la misère récolte la colère ». C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligées de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça.
Merci,
on
monsieur
veut pas
Mathieu.
Crever.
C'est là-bas si j'y suis, dernière de la saison avec toute la bande.
Flight number 2, arriving from New York.
Eh oui, on est toujours là. La voici, j'y suis, à 15h, du lundi au vendredi, sur France Inter.
Ben, ce petit message, vous ne l'avez pas entendu sur France Inter au cours de cette saison. La direction n'avait pas souhaité qu'il soit diffusé sur l'antenne. En tout cas, pour l'instant, nous, on a la bouée, on a le parasol, on a les lunettes noires et effectivement, on s'apprête à partir en vacances. Si on ne tombe pas dans le ravin, si l'avion n'explose pas en plein vol... si on chope pas la grippe mexicaine, si les petites cochonnes nous mangent pas, et ben on sera là à la rentrée prochaine. Et l'année prochaine, et ben on va célébrer les 20 ans de la basse, si j'y suis. Et oui, 20 ans, on a commencé en septembre 89, et notamment on retournera sur nos pas en Allemagne, à Berlin, etc., tout au cours de cette année prochaine. Aujourd'hui, retour sur cette saison, sur quelques moments de cette saison. On va aller faire un petit tour en Guadeloupe. D'autres ils sont à notre place en ce moment. On va faire un petit tour aussi à Monaco. Pas mal Monaco, voilà, c'est un peu moins loin, mais c'est tout aussi exotique. Un petit tour pendant les élections américaines, non loin de New York, dans un petit patelin très charmant qui s'appelle Darien, dans le Connecticut. Et puis, enfin, on prendra tous une grande leçon de journalisme avec un vrai grand reporter. Vous savez que là-bas, si j'y suis, le monsieur a raison, on peut pas appeler ça vraiment des journalistes. Et là, on finira donc cette saison avec un grand, grand, grand reporter. Et puis, derrière ça, quand même, il y aura, si on a le temps, d'ici à 16h, un extrait d'un reportage, d'une reporter de la base Sigismi qui s'était enquis de possibles clandestins sur les chantiers de Monsieur Bouygues. On est comme d'une curiosité. On se demande où ces gens-là vont nicher leur gros micro. C'est jusqu'à 16h. C'est la dernière de là-bas de la saison.
Qui c'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir?
Les gens qui pensent.
Mais qui c'est qui se gêne pas pour que les coches fassent des booms?
Les gens qui bossent,
ils s'occuperaient de leurs enfants, il y aurait jamais de délinquants.
Les gens qui bossent,
ils exploitent la planète, et puis tant pis si ça pète.
Les gens qui bossent, oh, 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 ah bah les gens qui bossent, oh, oh, oh.
À cause de qui y'a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé?
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais?
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui en a marre de payer des allocs aux immigrés?
Les gens qui bossent.
Et surtout à cause de qui y'a pas de boulot aujourd'hui?
Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent.
Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien d'autre à foutre. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas de quoi la ramener.
Yeah.
mot de cette saison de là-bas si j'y suis, et pas seulement, c'est évidemment le mot profitation. Comme profit et comme exploitation, génie de la langue créole que d'avoir concentré ces deux mots en un seul, profitation. Yana, je compte profitation, El Capé, tout le monde a ce sigle dans la tête, se souvient de ces moments extraordinaires de lutte en Guadeloupe, là-bas si j'y suis, y était, et nous avons diffusé en direct nos reportages avec Antoine Chao. Aujourd'hui, le bilan est très mitigé, très ambigu, c'est très très tendu. On suit ce qui se passe évidemment dans ce pays, dans ce petit pays. Et on va revenir en arrière sur les images et les moments vécus là-bas.
C'est absurde quand jeune, quand tu vas demander du travail, il a tous ses diplômes, on le juge pas non pour ses compétences, mais pour sa personnalité. Faut arrêter ça, messieurs. Faut arrêter ça, faut qu'on arrête ça. Faut que cela cesse. Quand un jeune demande du travail, il a tous ses diplômes, donnez-lui du travail. Ne le qualifiez pas non pas sur sa personnalité. Faut qu'on arrête ça. L'esclavage est fini.
Quel que soit ce qui se passera, on ne pourra pas faire que ce peuple se transforme en une rangée d'appareils digestifs. On a voulu nous transformer en appareil digestif, consommer ce qui vient directement de France et ensuite passer à la déjection. Alors le non manifeste aujourd'hui notre liberté. Nous disons non à ce que fait l'État colonial français en Guadeloupe.
Et nous disons à l'opinion française internationale que malgré les manglots, malgré la police, malgré la mort de notre camarade Japino, rien ne nous fera reculer.
Je crois que en Guadeloupe, il y a 450 000 habitants.
Élie de Motta,
chaque semaine,
France 5.
Si nous faisons une manifestation, c'est plus de 100 000 personnes qui descendent dans les rues.
22 février 2009.
Ça équivaut à 15 millions de personnes dans le même lieu en France. Et 15 millions de personnes dans un même lieu en France, je crois qu'on les écoute.
Oui, peuple amendé des 100 euros.
Je sais le sentiment d'injustice qui vous habite face à des inégalités, à des discriminations, qui vous paraissent à juste titre, j'emploie le mot, intolérable. Ce sentiment d'injustice, je le comprends, je le partage.
Le président de la République annonce des mesures concrètes pour dénouer la crise. Il propose un effort supplémentaire de l'État de 580 millions d'euros et une batterie de mesures. Une prime exceptionnelle payée par les patrons, exonérée de charges qui avoisine les 200 euros.
Les 200 euros c'est bien, mais c'est pour les gens qui travaillent. Nous on ne travaille pas, donc ça sert à rien.
Monsieur le secrétaire d'État nous dit dans une de ses tribunes que l'outre-mer a besoin d'amour, d'un amour sincère. Non, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le ministre, votre gouvernement n'a rien compris à l'outre-mer. L'outre-mer a besoin de respect, d'équité, d'égalité, de justice sociale, pas de compassionnel.
Tonton JR et Papa n'a Guadeloupéen sans système.
Je m'appelle James, je suis Guadeloupéen. Je m'appelle Kennedy, je suis Guadeloupéen.
Ancé, Nec, Guadeloupe. Fermons les parenthèses et ouvrons les dossiers. Les gringels, qu'est-ce
fait gagner l'argent. Vas-y, Patini, nous attend une réponse. Vas-y, mais reculez pourquoi?
On a carré.
Bacaré, qu'il est reculé, bacaré, qu'il est reculé, bacaré, qu'il est reculé. Arrête, qu'il est ma belle son.
Bacaré, qu'il est reculé, bacaré, qu'il est reculé, bacaré, qu'il est reculé, reculé, la guillemette.
On est juste à des vitesses, moi ni des modèles. On s'est des vices, pas les seuls de monter. Pourquoi qu'il est qu'il laisse monter en remonter? On t'y veut qu'un combat carré, mais deux montants.
Non,
on va qu'à bouger, on va qu'à demander.
Non,
on va qu'à bouger, on déchaîne la cabane.
Yes, we can.
On te fait y'a la Obama, répétez-on ça.
On prend oui, Boana.
Pour faire profit, toi, malgré l'âge. C'est nègre, nègre, mais pas vrai pour un tableau. Associé en calais, la semaine est moins en bateau. On l'a pour solution, pas la pour débat. On a rappelé qu'il y a pas mal d'hommes. J'ai l'intérêt, il m'a demandé en mail. Où j'avais goûté fouette, connaître mes 67. Allez se payer taxes et la bonne à.
Eh, pourquoi on va censurer?
On dit où la bonne à yot. Portez mon aide, on nous met nous à table. Ou quand ou pas, dis pito, on fait pas. On pas quoi bouger, pourquoi on l'encaille? Salut, ça, commandez ce qu'on respecte.
Merde, merde.
Merci les hommes.
Un pays ensoleillé dirigé par un prince magnifique. Et oui, vous avez reconnu, c'est Monaco. Monaco, la patrie de l'écologie. Si, 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 le prince, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, est un écolo. Mais un grand, grand écolo. Voilà pourquoi, vous savez que l'écologie nous intéresse. Ce genre d'écologie nous intéresse et c'est pour ça que François Ruffin était l'envoyé spécial de là-bas, si j'y suis, à Monaco. Mais alors le problème à Monaco, c'est très difficile d'avoir des entretiens avec des personnalités. Il faut préparer, il faut montrer patte blanche, enfin c'est difficile, mais pas insurmontable pour les grands reporters de là-bas, si j'y suis. Et c'est ainsi, amis auditeurs de la basse où j'y suis, modestes et géniaux, que nous avons réussi à rencontrer Stéphane Valéry.
Monsieur Ruffin, bonjour, bienvenue au Conseil national. Je vous en prie, installez-vous.
Alors là, on vous voit avec le...
Oui, là, vous avez quelques photos qui m'ont marqué.
Ça, c'est mon discours à l'ONU dans le cadre de la conférence des présidents de parlement du monde. Ma rencontre avec, après mon élection avec le pape.
Le pape Jean-Paul II.
Ma deuxième, mon élévation par Albert II dans le grade de supérieur de la décoration nationale. Ça, c'est une journée des femmes qu'on a fêtée pour la première fois ici avec la princesse Stéphanie. Et mon homologue, le président du Sénat. Monsieur Pancelet qui m'a reçu au Sénat français.
Oui, mais c'est ça, donc vous êtes un peu l'équivalent de...
Exactement. Donc, j'ai eu vos questions, effectivement. Alors, on va essayer de répondre de manière très courte.
D'accord. De toute façon, ça reste entre nous, le fait que je vous ai filé les questions à l'avance,
oui,
que
sûr.
Je les ai un peu modifiées, puis tout ça.
Bien sûr.
Parce que, enfin, c'est une question enfin, d'honneur professionnel, vous voyez.
Bonjour.
Bon, bah, donc, même si on a écrit les questions et puis un petit peu les réponses à l'avance, l'objectif, c'est de faire ça de manière la plus spontanée possible.
Oui, bien sûr. C'est une radio, j'ai bien compris. D'ailleurs, comment voulez-vous qu'on procède? Vous me posez la question et je vous réponds comme si on était en direct. Comment voulez-vous qu'on enregistre?
Oui, voilà. Ouais. Je vais sortir le matériel. Donc, je vais prendre les questions dans l'ordre qu'on les a... Alors, une question préalable pour éclairer nos auditeurs français et moi également. Aujourd'hui âgé de 46 ans, vous êtes le plus jeune président du Conseil national de Monaco, élu en 2003, réélu cette année en 2008. Qui êtes-vous, Stéphane Valéry?
Eh bien, je suis un monégasque qui a fait toutes ses études au lycée Albert Ier, notre lycée public de Monaco. Je suis diplômé donc de l'École européenne des affaires du groupe EAP-ESCP de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. En ayant terminé mes études, Je suis rentré dans mon pays et très rapidement, j'ai créé une entreprise que je dirige toujours, qui est une société de communication, de publicité.
Alors là, il y avait deux questions. Je vois que sur votre papier, c'est pas modifié, mais on a décidé de les réunir en une seule question avec votre conseiller en communication. Mmh. Une de vos ambitions, en accord avec Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, était d'améliorer l'image de la principauté de Monaco. Comment la principauté a-t-elle misé ? Le terme est peut-être mal choisi. J'avais écrit ça. Miser sur l'environnement pour améliorer cette image.
Oui, d'abord, la tradition de culturelle était réellement une vieille tradition à Monaco. Hein. Donc déjà à la belle époque, au début du XXe siècle, il y avait des ballets à Monaco de Diaghilev, connus dans le monde entier.
Ah mais là, en fait, on avait enlevé, avec votre conseiller en communication,
on enlève la culture. Ouais,
il était convenu qu'on enlève la culture pour éliminer un
très
peu
bien,
de...
Si vous voulez,
donc on se concentre sur l'environnement. Ma question, en gros, c'est est-ce que, quand avec la Fondation Albert II, on réintroduit des JPEG dans le parc du Marcontour, est-ce que c'est pas un peu gadget ? Est-ce que quand on présente le Monaco Yacht Show où il y a des bateaux qui consomment un fuel immense ou que il y a un Grand Prix de Formule 1, on n'est pas franchement modèle non plus, quoi. Donc c'est un peu le sens de ma question. Je vais la répéter pour qu'il n'y ait pas de problème,
Très bien.
Au montage.
Je vous écoute.
Donc on a éliminé la partie culture. Hein.
D'accord.
Donc comment la principauté a-t-elle misé ? Le terme est peut-être mal choisi, miser sur l'environnement pour améliorer cette image.
Écoutez, d'abord, je ne crois pas qu'effectivement la principauté n'a pas misé. Il se trouve que c'est une conviction profonde du prince Albert II, hein, qui a créé d'ailleurs, dès qu'il est devenu souverain, une fondation, la Fondation Albert II, justement pour lutter contre le réchauffement de la planète. Il n'y a pas là, je dirais, un calcul, il y a une conviction qu'aujourd'hui, on peut aimer son pays tout en aimant aussi sa planète.
Vous pourriez peut-être dire un mot, enfin, je vous dis ça comme ça, sur une sensibilité qu'il y aurait chez les Grimaldi à la nature, à l'environnement et tout ça, non ?
Oui, ben, si vous voulez, je vous l'ai dit indirectement en disant que...
Même, je veux dire, peut-être même Albert Ier, quand il y avait eu les expéditions et tout ça.
D'accord.
Enfin, je sais pas.
Tout à fait.
Sur une sensibilité un peu familiale.
C'est vrai. Oui, incontestablement, il y a une sensibilité dans la dynastie des Grimaldi. On peut remonter par exemple au prince savant, le grand océanographe, le prince Albert Ier, et puis bien sûr le prince Albert II, qui est un prince moderne, un prince de son temps. Il a d'ailleurs consacré une fondation, sa fondation Albert II, à ses grands objectifs qui dépassent de beaucoup, je dirais, les frontières de Monaco. Être un citoyen moderne, être un prince moderne. C'est comprendre qu'on peut aimer bien sûr son pays tout en aimant aussi la planète et en se battant pour la sauver.
Très bien. Alors cette question-là, si la prochaine question, si ça vous dérange pas, je vais la mettre à la fin. Mmh, d'accord ?
Pas de problème.
On va faire une petite série de questions rapides. Donc, hein. Si vous deviez choisir un adjectif pour caractériser votre pays, lequel conviendrait le mieux ?
Moi, j'ai une petite formule. À Monaco, la tradition, c'est l'innovation.
Alors ensuite, on va faire la même chose. Si vous deviez choisir un adjectif pour caractériser le prince, Son Altesse Sérénissime le prince Albert II, lequel conviendrait le mieux ?
Humaniste.
On va peut-être le refaire pour que ça soit. Vous voyez, là, ça fait. On a le sentiment, ça fait pas assez spontané. On a le sentiment que vous l'avez écrit à l'avance et que vous ferez peut-être une petite hésitation. Enfin, vous voyez, ça vous dérange pas ?
Oui, non, pas du tout.
Que ça fasse spontané, qu'on sente pas
d'accord.
Que vous avez tout réfléchi avant, que comme si il y avait un sentiment de surprise. Quoi.
D'accord.
D'accord. Si vous deviez choisir un adjectif pour caractériser Son Altesse Sérénissime le prince Albert II, lequel conviendrait le mieux ?
Écoutez, un seul, c'est difficile. Moi, je vous dirais humaniste, proche des gens, moderne, attaché à son pays tout en l'étant tout autant à sa planète.
Très bien. Alors, il y en a plus d'un, mais c'est votre cœur qui déborde.
Voilà.
From Main Street. Easy Credit. Is like a drug.
Le crédit facile, c'est comme une drogue, c'est comme une addiction.
And in this country, we put drug users in jail.
Dans ce pays, on met les drogués en prison.
So for 100,000.
Ils
ne veulent pas donner boulot aux gens déjà.
L'économie
monte, les prix augmentent, les prix escaladent. Toujours pas de boulot pour pouvoir payer.
Première instruction que nous donne le shérif avant d'aller partir faire la tournée d'expulsion des mauvais payeurs. Se vaporiser de ce produit anti-poux. Parce qu'on va chez des gens pauvres.
Et il y a un papier qui était là. Last chance. Dernière chance pour récupérer votre maison. Manifestez-vous, sinon votre maison sera vendue aux enchères. Et la lettre est restée là dans la cuisine en vrac. You're listening to ABC News. News
Talk 630. We'll protect your job. Ouais, expropriation à Cleveland, Ohio. Petit produit contre les poux, c'est normal puisqu'on va chez les pauvres. Vous savez comment sont les pauvres, très souvent ils ont des poux et ils en laissent dans les maisons qu'ils abandonnent. Et puis parfois ils sont encore dans les maisons, les poux et les pauvres. C'est donc du souci. Et on a partagé ce souci avec l'équipe du shérif de Cleveland, Ohio. Mais il faudrait pas donner des États-Unis une image quand même trop dégradée. Trop dégradé. La crise frappe, c'est sûr, à frapper, c'est sûr. Mais il y a des gens chez qui ça a frappé, mais moins fort, disons. Voilà, moins fort. Par exemple, à Darien. Darien, c'est dans le Connecticut. C'est à une heure environ de Wall Street. Et c'est absolument charmant. C'est la deuxième ville la plus riche des États-Unis, où les gens les revenus les plus élevés des États-Unis. Et c'est là que nous étions avec Guy Van-Til à la veille des élections américaines. Maintenant, on connaît les résultats, bien évidemment, mais à l'époque, on ne les connaissait pas. Promenade. Là, c'est quand même assez rigolo. C'est un salon de coiffure. Alors, en bas, c'est un salon de coiffure pour chien. Et à l'étage, c'est un coiffeur pour homme. D'ailleurs, voilà un homme qui sort du salon de coiffure pour homme, qui est drôlement bien peigné. T'as vu ça, le petit coup de peigne qu'il a, la raie bien droite sur le côté. Et puis là, il y a la dame qui est en train de boire son petit coup de rouge avec sa cigarette. Et puis là, il y a notre ami. Alors, bonjour, comment vous vous appelez?
Becca.
Becca. Et combien ça coûte une coupe de chien comme ça? Enfin, une coupe, un entretien de chien comme ça. Je vois votre collègue, elle est en train de le tondre. Combien ça coûte?
75.
$75.
Quand même. Et une coupe de cheveux pour un homme?
I am not sure of that. I think it's 45.
Je crois que c'est 45.
Oui, les hommes, c'est moins cher que le chien.
Yes, but they're only doing your head. We do the whole body. Plus, you get a manicure and a pedicure.
Toi, on fait que la tête en haut. Tandis qu'ici, on fait tout le corps, plus la manicure, plus la pédicure.
You sit still.
Voilà, et puis toi, tu restes assis sagement.
Mais combien vous rasez de chiens comme ça par jour?
We do approximately 30 to 35 dogs a day.
À peu près 35 chiens par jour.
We were voted best of the Gold Coast 4 years in a row. And we do more dogs than anybody else.
Ça fait 4 années consécutives qu'on est le meilleur salon de toilettage de toute la Gold Coast, c'est-à-dire la Côte d'Or.
They come here because we do the best job. It's all in the open. They can see what we do.
Ils viennent tous ici parce que justement, c'est nous qui travaillons le mieux. Et puis, tout est ouvert. On voit comment on travaille.
Mais oui. Est-ce que vous vous occupez des relations psychologiques entre le maître et le chien?
Always.
Toujours.
Always. Parce que moi, j'avais un problème, je jouais du saxophone. Et quand je jouais du saxophone, le chien venait, mais il hurlait à la mort.
Those kinds of sounds are very painful to a dog.
Oui, parce que ces sons sont très, très douloureux pour les chiens.
Mais pourquoi est-ce qu'il venait?
I played violin as a child, and the only time my dog came in my room was when I was playing violin and would howl incessantly.
Moi, je jouais du violon pendant mon enfance, et le seul moment où le chien venait dans ma chambre, c'est quand je jouais du violon, mais il venait pour hurler à la mort, justement.
Comme moi, alors?
Yes.
La même histoire.
Absolutely. Same story.
Mais du coup, j'ai arrêté le saxophone.
I quit the violin.
J'ai abandonné le violon.
On a la même destinée, tous les deux. On n'aurait pas eu de chien, on serait devenus des grands musiciens.
To us, the music is beautiful. To them, it's painful.
Voilà, pour nous, la musique, c'est merveilleux et pour eux, c'est douloureux.
Ah, c'est drôle.
Maybe I wasn't that good a violin player.
Ou peut-être que c'est moi qui jouais pas bien du violon.
C'est possible aussi, moi, pour le saxophone. Et que le chien était un bon musicien, au contraire. Dis donc, on peut entrer, dire bonjour?
l'ascenseur.
Hi, how are you? Hi.
Go get him. Vas-y, attaque.
Oh, no. Save mommy.
Sauve maman.
Mais celui-là, il est épouvantable, celui-là. Qu'est-ce que vous lui faites à celui-là?
Oh, she had a haircut.
Une petite coiffure.
She had her nails done.
On lui a fait les ongles.
She has on her Halloween things.
Et elle a mis ses déguisements de Halloween. Ah.
Negidou, say hello. Negidou, say hello. But you know, animals are like people's children. These aren't animals. These are people's children.
Oui, non, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas des animaux, ces bêtes-là. Ce sont les enfants de nos clients.
And they're treated better than some children are treated.
Et ils sont mieux traités que certains des enfants, d'ailleurs.
So, you want to say something? Huh? Oh, give kiss.
Mais alors, les hommes au-dessus, vous vous en occupez aussi ou pas du tout, les hommes?
Non.
Ouais, ils auraient de la chance s'ils faisaient ça.
Ouais. Bah, ce serait agréable. Moi, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi comme vous vous occupez des chiens.
Hein. We like the four-legged variety.
Non, nous, on préfère ceux qui marchent à quatre pattes.
Vous vous amusez bien toutes les quatre?
No, it's good. We have a good group of girls.
On a un bon groupe de copines.
Really well. I know. I have every right to. It's a very scary time for everyone.
Mais c'est une période très très effrayante pour tout le monde.
It really is, and we have sympathy for everyone.
Et nous, on a de la compassion pour tout le monde.
There are so many people who now have to reorganize their lives.
Je pense à tout le monde, tous les gens qui sont obligés de reprendre en main leur vie, de réorganiser.
These are critical times.
Une période difficile, vous savez.
I have mutual funds and the stocks are too risky.
Non, je joue pas en bourse parce que c'est trop dangereux.
I have stocks, I have mutual funds, I have everything.
Moi j'ai un peu tout, j'ai des actions en bourse, dans des mutuelles.
So down.
Je suis tellement déprimé. Did you lose money?
Are you kidding?
Je demande s'il a perdu de l'argent, elle me dit mais tu te fous de ma gueule?
Yes. Badly.
That's beaucoup, j'ai beaucoup.
Combien vous avez perdu?
You want to hear it?
Vous voulez entendre vraiment, vous êtes sûr?
For $50,000.
$50,000.
Oh, my 401k, then my mutual and stocks.
Avec ma retraite, mes actions et ma mutuelle, $50,000 de perdu.
Mais à qui la faute?
It's no one person's responsibility. This started over 30 years ago.
C'est pas la faute de quelqu'un. Tout ça a commencé il y a 30 ans de ça.
À quand ça?
Nothing happens overnight.
Rien n'arrive d'un coup.
Un
politicien après l'autre qui fait les mauvais choix.
So you cannot nail this on one person.
On peut pas pointer du doigt une responsabilité.
I think it's all of us not paying attention.
C'est nous tous qui n'avons pas fait assez attention.
Mais vous en sortez bien toutes les trois là. Vous avez des bons salaires.
We have decent salaries, but there's nothing to be saved. So that rainy day will come, and there will be nothing left.
On a des bons salaires, ça va, mais on n'a pas assez pour mettre d'argent de côté. Donc le jour où les soucis vont arriver, on n'aura pas de marge de manœuvre.
Ah. Les soucis, c'est-à-dire quand vous pouvez plus payer les dettes.
The loan
comes in, and the paycheck is not enough to cover it all, because as prices go up.
Les prix montent et c'est la facture qui s'accumule et c'est quand on n'a plus d'argent sur le compte pour payer les factures.
And you're still getting the same pay.
Alors que le salaire n'a pas bougé.
Cover.
Et là, on n'arrive plus à joindre les deux bouts.
Mais ici, c'est très difficile pour arriver à vivre. Les maisons sont très chères.
It's ridiculous.
C'est ridicule.
Housing is out of control.
Par exemple, les prix de l'immobilier ici, c'est complètement hors de contrôle. Les maisons d'un million de dollars.
A normal person pay for that.
Comment une quelqu'un normal peut s'acheter une maison d'un million de dollars?
In fact, for laughs and giggles, I send the local newspaper home to my mother in Ohio, and she can't believe what housing costs out here.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que ma mère, elle habite dans l'Ohio, et elle n'arrivait pas à croire le prix de l'immobilier qu'il y a ici.
On était à Cleveland là hier.
Oh!
C'est de là que je viens, moi. Ohio. Vous voyez ceci là-bas? Life is all about how you handle plan B. La vie, c'est comment tu t'arranges à faire avancer le plan B.
I think we're actually at
C.
No, I think M. Maybe X.
Voilà. Maintenant, on n'en est plus au plan B, dit-elle. On en est peut-être au plan C, peut-être le plan M ou vers le plan X.
Maybe X.
Bon, mais vous avez les élections, là.
Yes, and we'll see what that holds for us.
Et on va voir ce que ça va changer pour nous.
Alors, vous savez ce que vous allez voter?
Yeah, yes.
Oui.
Et alors?
McCain.
You?
McCain.
McCain? The three of you.
Ah, bon, ça va. Comme ça, vous êtes toutes les trois d'accord.
We are a conservative right-wing shop.
Ouais, ici, c'est une boutique de conservateurs de droite.
Last question. What if Obama wins?
I want to move.
I'm really scared if he wins.
Je demande dernière question. Qu'est-ce qui se passe si Obama gagne? Et là, ça change tout de suite l'ambiance. Becca veut déménager. Et moi, j'ai vraiment peur qu'il gagne.
If he wins, my wealth.
It's the end of the United States as we know it.
S'il gagne, c'est la fin des États-Unis comme on les connaît, parce qu'il veut dépenser nos richesses, il veut distribuer ma richesse.
Uh-huh.
It's a disaster of biblical proportions.
C'est vraiment, ça sera alors un désastre de proportions bibliques.
Vraiment?
That much.
Il va dépenser quelle richesse?
Il n'a aucune expérience. I don't even know how he got to it. First of all, don't even start me on this, but.
Faut pas me chauffer là-dessus, hein.
You know what? In my opinion, he wasn't born in this country.
Il est même pas né dans ce pays. Il a même pas le droit de diriger ce pays.
He was born in Kenya.
Lui, il est né au Kenya. C'est là où il est né.
He has a half sister and a half brother in Kenya.
Il a un demi-frère, une demi-sœur au Kenya et sa grand-mère maternelle qui sont là-bas.
Oui, mais est-ce que McCain, il est pas un petit peu vieux?
I wish I had a better choice.
Moi, je préférerais avoir un meilleur choix que McCain.
But I will take McCain over Obama.
Mais je voterai McCain plutôt qu'Obama.
At least he served in the armed forces. At least he has some insight to what's going on.
Au moins, lui, il a servi dans l'armée. Au moins, lui, il a un peu d'expérience sur comment marchent les choses.
Oh, don't even start me off.
Ah, faut pas m'énerver. I don't want.
Why would you? What? The man is Barack Hussein Obama.
Attends, comment il s'appelle? Il s'appelle Barack Hussein Obama.
Doesn't that say enough?
Est-ce que ça en dit pas assez?
He's a Muslim.
C'est un musulman, le gars.
He read the Quran. He did all of that.
Il a lu le Coran. Il a fait tout ça.
We don't know where he came from. All of a sudden, he was there.
On sait même pas d'où il vient. Un jour, il est arrivé là. Voilà, il s'est présenté.
This is very bad.
Tu vois, moi, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, d'affolé.
Just upset.
Hey, parlez-nous un peu de Sarkozy. Comment vous le trouvez, notre président?
I don't know too much.
Moi, j'en sais pas trop.
He's terribly handsome.
Il est très joli. Il est très beau.
And he has a beautiful wife.
Il a une très jolie femme.
How do you like him?
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
How's your country doing?
Et comment va votre pays?
Ben, ça commence à aller pas très bien. On dépend de vous, si ça.
Well, it's become a global economy. It's everybody.
C'est une économie globale. La Chine, nous, vous, la Russie, partout, tout le monde est libre.
Quand les États-Unis éternuent, la France s'enrhume.
Achou!
quand même, je suis un petit peu étonné que vous connaissiez pas du tout près de le président Sarkozy, quand même.
Oh, sorry.
Désolé.
Oh, oui. Il est venu voir Bush, il est venu
to
voir
George Bush. Bush.
Because take it personal.
We are so
faut pas que tu te prennes ça de manière personnelle. Tu sais, on a tellement de problèmes, nous aussi.
Je prends pas ça mal.
On a tellement de soucis ici qu'on n'arrive pas vraiment à se concentrer.
What about the war?
Et puis il y a la guerre aussi.
The poor guys that are over there.
Tous ces pauvres gars qui sont là-bas. Et moi, j'en entends même plus parler de tout ça.
Those poor men that are over there.
Ces pauvres gars là-bas.
That's so sad.
C'est tellement triste, tout ça.
Ça, c'est dur. C'est très, très dur.
It's not done. It's not done.
C'est pas fini, tout ça.
It's global now.
C'est tellement de problèmes, c'est global.
We have to remember.
Il faut se souvenir.
We all need each other.
On a tous besoin les uns des autres.
France, America,
c'est plus la France de son côté, l'Afghanistan de son côté, les États-Unis de l'autre côté.
C'est l'international. C'est la lutte finale, quoi, l'international.
All right, you go. Thank you very
much.
Thank you very much. It was a pleasure meeting you.
I just hope everything turns out all right.
J'espère que tout bien va se finir.
Salut. We're your Mac and Girls. Et nous avons des nouvelles pour vous. Il est mieux d'écouter. Vous êtes prêts? Vous êtes une femme solitaire? Et laissez ces démocrates à la maison. McCain est en train de monter. Obama va perdre. Selon nos sources, McCain devrait avoir le vote. Parce qu'aux élections de 2008, la météo prévoit de la pluie. Pour la première fois de l'histoire, il va commencer à pleuvoir des McCain. Il pleut des McCain. Hey Mac, je vais sortir et me laisser aller complètement John McCain. God bless. Dieu bénisse John McCain. Lui aussi est un vétéran du Vietnam. Il est parti pour le Vietnam et il a fait ce qu'il devait faire. Il a dit à tous les anges de réarranger le vote afin que chaque Américain soit pour John McCain. Il pleut des McCain. Le de McCain et Mac. Hallelujah, it's raining McCain. Amen. I wanna go out and let myself get absolutely John McCain. John McCain.
Vous savez quoi? Vous savez quoi? L'équipe de la base, si j'y suis, a la combinaison gagnante pour le rayonnement culturel de la France. Je m'adresse au nouveau ministre de la Culture. Cette combinaison gagnante, c'est 6 lettres. 6 lettres, et c'est tout. B-H-L-Y-A-B. Oui, B-H-L. Et Yab, c'est-à-dire Yann Arthus Bertrand. Imaginez un seul instant un film de Yann Arthus Bertrand sur un texte, un scénario de BHL. Hein? Ce serait quand même formidable. Ce serait formidable. Vous nous remercierez. Par la suite, lancez-vous avec courage, détermination et engagement. Engagement. Car notre BHL est un intellectuel engagé. Et il l'a démontré. Il le démontre de façon permanente. Ainsi, au cours de cette saison, un moment particulier a été l'opération Plomb durci à Gaza. Vous vous souvenez la difficulté qu'éprouvaient les journalistes chevronnés, à raconter ce qui se passait dans la bande de Gaza. Eh bien, il y a eu quelqu'un y est allé, et heureusement, il a pu raconter ce qui s'y passait. C'est évidemment notre BHL, Bernard-Henri Lévy. Et il a publié dans le journal du dimanche, c'est carnet de guerre par BHL. On a lu ça, mais avec passion. Et on s'est dit, il faut absolument que les auditeurs, ça suffit pas le journal du dimanche, il faut que les auditeurs connaissent la vérité, la réalité de ce qui se passe dans cette région du monde. Et voilà l'interprétation que là-bas, si j'y suis, par la voix de Renaud Lambert, a fait de cet indispensable reportage.
Jovan Diskin est le patron du Shin Bet, la mythique et redoutable agence de sécurité intérieure d'Israël. Il est grand, massif. Il n'a, à ma connaissance, jamais parlé. Il me reçoit aux aurores, dans son bureau au nord de Tel Aviv, qui, avec ses meurtrières en largeur, ressemble à un blocos. Il faut que vous compreniez qui sont les gens du Hamas. Nous les connaissons ici mieux que personne. J'ai l'impression parfois d'être capable de suivre en temps réel, parfois de précéder leurs moindres décisions. On lui importe un gobelet de café qu'il boit d'un trait. Je fais signe que je sais. Rien ne justifie la mort d'un gosse, m'a dit Asaf, 33 ans, patron d'un restaurant à New York et, dans ses périodes de réserve, pilote d'hélicoptère Cobra. Rien Et c'est pourquoi, lorsque le risque existe, lorsque je m'aperçois dans mon cockpit que je peux, en visant un objectif militaire, toucher aussi des civils, je démonte et je rentre à la base. J'ai mis Assaf au défi de m'apporter la preuve de ce qu'il dit. Et c'est ainsi que je me retrouve ici, dans le Negev, sur la base de Palm Hashim, saint des saints de la technologie israélienne, où ont été notamment testés les fameux missiles antimissiles Arrow. Vidéo de bord d'Assaf. Enregistrement de sa conversation, le 3 janvier, avec un interlocuteur au sol qui l'informe de sa décision de tout arrêter car le terroriste qu'il a en ligne de mire est rejoint par un enfant. Et d'incroyables films, j'en visionne 4, de ces missiles déjà lancés que le pilote, voyant qu'un civil apparaît dans son écran ou que la Jeep ciblée entre dans le garage d'un immeuble dont on n'a pas, comme c'est l'usage, alerté les occupants, détourne en pleine course et fait exploser dans un champ. Qu'Assaf ne soit pas l'exception, mais la règle, il est important de le dire. Et tant pis pour le cliché qui veut réduire Tsahal à un ramassis de brutes s'acharnant sur les femmes et les vieillards. Ehud Barak chez lui. Je l'ai vu hier à Palm Hashim, entouré de ses généraux. Je le retrouve aujourd'hui dans ce salon tout en longueur qui semble construit autour des deux pianos dont il joue en virtuose. Il évoque lui aussi le dilemme moral auquel son armée est confrontée. Mais le téléphone sonne. C'est Condoleezza Rice qui appelle pour le presser de conclure très vite un cessez-le-feu. Le ministre pianiste sourit. Le ton monte à Paris. Jean-Marie Le Pen déclare que Gaza est un camp de concentration. D'autres, du côté de la gauche radicale, tonnent qu'il n'y a pas eu, depuis longtemps, pire massacre de musulmans que celui des Gazaouis. Et les 300 000 Darfouris, camarades, et les 200 000 Bosniaques, et ces dizaines de milliers de Tchétchènes que Poutine alla buter jusque dans les chiottes et qui ne vous arrachèrent pas une larme. Soucieux, contrairement à vous, d'essayer au moins d'aller y voir. Je suis ce mardi 13 janvier entré à la nuit tombée dans les faubourgs de Gaza City, quartier Abassam al-Jadida, 1 kilomètre au nord de Khan Younes, embedded dans une unité d'élite Golani. Je sais, pour l'avoir évité toute ma vie, que le point de vue de l'embedded n'est pas le bon point de vue. Et je ne vais pas prétendre en quelques heures avoir capté l'esprit de cette guerre. Mais, cela étant dit, je donne mon témoignage. Les combattants de Varsovie n'avaient pas, hélas, de mines antichars du type de celle qui vient d'exploser sous les rues du véhicule passé 20 minutes avant le nôtre. Leurs assaillants n'avaient pas la lassitude, le dégoût profond de la guerre qu'expriment le commandant Guidi Kferel et les 4 réservistes qui nous accompagnent. Et puis, enfin, je peux me tromper, mais le peu, très peu, que je vois, building plongé dans l'obscurité, mais debout, vergers à l'abandon, la rue Khalil al-Wazir avec ses commerces fermés, indique la ville sonnée. Transformé en souricière, terrorisé, mais certainement pas rasé, au sens où pure lettre, Grozny ou certains quartiers de Sarajevo. Peut-être serais-je démenti quand la presse entrera enfin dans Gaza, mais pour l'heure, c'est encore un fait.
Voilà, voilà, voilà ce que c'est que le vrai grand reportage d'un vrai grand reporter. BHL, vous l'aviez reconnu, extrait des carnets de guerre publiés dans le journal du dimanche. On va finir avec un reportage de Pascal Le Pascariello, qui ne passe pas sa vie uniquement à tourmenter et à harceler Serge Dassault. Elle a aussi Francis Bouygues dans sa ligne de mire, la mémoire de Francis Bouygues dans sa ligne de mire qui disait « Cette main-d'œuvre étrangère est une main-d'œuvre que j'aime beaucoup parce qu'il y a 20 ans que je travaille avec une majorité d'étrangers, donc je les connais bien. Les étrangers sont des gens bien, qui ont des qualités. » Voilà ce que disait monsieur Bouygues. Et le tourment de Pascal, c'était, y a-t-il des sans-papiers sur les chantiers Bouygues? On lui avait dit ça, cette petite, alors elle a cru, alors elle a profité pour en savoir plus de la journée des chantiers ouverts. Chantiers ouverts au public. Vous savez, c'est toujours chantier interdit au public. Eh bien, cette fois-ci, c'était chantier ouvert au public et donc aussi à Pascal Pascariello.
Engel, on est, c'est les coulisses du bâtiment, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est les coulisses du bâtiment. C'est un événement organisé par la Fédération française du bâtiment qui consiste à ouvrir 300 chantiers à peu près dans toute la France.
Donc là, on est à l'Université de Jussieu à Paris.
Exactement.
Pour vous situer le contexte, c'est qu'on est entreprise générale là, sur le site de Jussieu où on réalise 166 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Donc vous êtes...
Moi, je suis Bouygues, bâtiment Île-de-France. Donc moi, Jean-François Ched, je suis directeur de travaux adjoint, donc je suis responsable du projet.
Donc là, on se dirige sur le chantier. Là, on est dans une des salles, des futures salles de classe, hein, de cours, j'imagine.
Là, c'est brut de béton, effectivement, ça peut nous pas ressembler.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe?
Ah, je sais pas du tout. Il y a des gens qui viennent de débarquer sur le chantier, je sais pas ce que c'est.
C'était pas prévu à la visite?
Ah non, je pense pas, non.
Déjà devant, il y a écrit quoi sur leur... Vous arrivez à voir, vous?
Excusez-moi, Pascal, faut que j'aille téléphoner. Juste, j'ai fait un coup de fil et je m'occupe de vous, ça ne me dérange pas?
D'accord.
Vous faites partie de la Fédération française du bâtiment?
Non, GPPF.
Comment?
GPPF Formation. C'est la chambre syndicale de la peinture de Paris, région parisienne.
De la peinture? Et expliquez-moi, parce que là, on ne peut plus faire les coulisses du bâtiment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des manifestants qui sont arrivés?
Ce sont des sans-papiers qui sont venus manifester. C'est la surprise.
Je pense qu'ils viennent manifester pour les sans-papiers, oui. Ils ont tous des casques de chantier, ça voudrait dire quoi? Qu'ils ont l'habitude de travailler sur les chantiers?
Moi, je ne sais pas.
Je vais l'emmener, je vous emmène. Vous m'emmenez où?
Vous êtes... Alors, il y a tout le monde... Les
on
deux
vous emmène.
Vous étaient où? Les deux parties étaient là. Ok, ils arrivent.
Pourquoi il faut évacuer le chantier? Si ça ne vous dérange pas de venir avec moi, parce qu'on... Vous vous réfugiez tous? Bonjour. Mais ils vont pas vous attaquer.
Mais les consignes, c'est de sortir du chantier, en fait.
On suis obligé d'arrêter le reportage. Et là, tout le monde arrête. Vous arrêtez les coulisses du bâtiment aujourd'hui?
Oui.
Je vais vous demander d'éteindre
votre micro.
Et nous, par contre, on va vous mettre en sécurité ici, d'accord? Et maintenant, par contre, je vais vous demander de couper votre micro.
Je vous suis, donc toutes les coulisses du bâtiment, on regagne les bureaux, là.
On regagne les bureaux.
Nous, on est en train de regagner les bureaux de la Fédération française du bâtiment.
Là, c'est les cantonnements.
C'est les cantonnements de...
De Bouygues.
De Bouygues.
Tout à fait, oui.
Les cantonnements, ça s'appelle?
Les cantonnements, oui.
On dirait que on est en pleine guerre. C'est des travailleurs sans papier qui sont venus investir le chantier.
Oui. Allez, il faut monter.
Mais c'est pas dangereux, ils sont pas dangereux.
Ah bah. Les gens de Bouygues nous font évacuer, on sait pas, ça peut dégénérer, hein.
Mais pourquoi? Ils sont pas armés?
On ne sait pas, non, a priori non, mais bon, c'est par mesure de sécurité.
Voilà. Ils occupent tout le chantier là-bas, donc il faut mieux rester.
Et en fait, ils ont tous des casques, c'est ça, c'est les travailleurs sans papier qui.
Ils s'amusent, je veux dire.
Je crois qu'ils sont venus dire qu'ils travaillaient chez Bouygues, c'est ça?
Mais je sais pas.
Je vais descendre de la tour de Bouygues pour aller peut-être voir les travailleurs sans papier.
Bah, faites attention à vous.
Parce que vous pensez qu'ils sont dangereux?
L'effet de masse, ça peut toujours dégénérer.
Oui, mais là, ils sont rentrés.
Engel, on est devant les travailleurs sans papier.
Oui, je pense que les travailleurs sans papier ont profité des coulisses pour manifester. Je ne sais pas d'où ils viennent. C'est pas forcément des... Je pense pas que c'est des employés de Bouygues.
On va lire. Alors... Un des travailleurs sans papier nous a donné un papier où il y a écrit justement pourquoi il manifeste. Est-ce que vous pouvez me lire ce qu'il y a écrit, Engel?
Droit devant pour la régulation globale des travailleurs et travailleuses sans papier. Des centaines de travailleurs sans papier du bâtiment.
Embauchés par le biais d'agences d'intérim.
Avec leur soutien, se sont invités ce samedi 11 sur le chantier Bouygues. Lors des journées, chantier ouvert au public organisé par la Fédération française du bâtiment.
Merci à toutes et à tous. Des reportages de Renaud Lambert, Guy Van Til, Antoine Chao, François Ruffin, Pascal E, Pascariello et Charlotte Perry. Toute l'équipe de La Basse J'y suis vous souhaite un bel été. Vous retrouverez un certain nombre de gens de l'équipe, d'ailleurs, sur l'antenne, dans les émissions. Dès lundi, sera Joe Farmer qui nous remplacera à 15h. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse J'y suis. Et puis tout l'été, vous pouvez réécouter La Basse J'y suis sur labas.org, la-bas. www.radioparleur.org. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Antoine Vieussa. Corinne Nguyen et Raphaël Moutard ont réalisé toutes ces émissions toute l'année, assistés de Charlotte Perry, Agnès Lebotte. Vous pouvez laisser des messages tout au cours de l'été au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.